Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on va commencer avec un extrait d'Apolline Matin, ce matin sur RMC. Sommes-nous prêts à affronter le dérèglement climatique? Après son plan sécheresse, le gouvernement présente aujourd'hui son plan forte chaleur afin que nous puissions nous adapter aux prochaines crises climatiques. Mais pour Jérôme Frignet, directeur des programmes de Greenpeace France, l'État ne prend aucune vraie mesure à long terme.
C'est une réaction à l'actualité. Il n'y a aucune planification, aucune anticipation là-dedans, en réalité. Quand on a un gouvernement qui, d'un côté, Christophe Béchu, qui va dire « attention à la maladaptation, on va avoir des sécheresses, etc. », mais quand on voit que de l'autre côté, on continue à encourager un système d'agriculture intensive, basé sur une irrigation massive pour produire du maïs, pour nourrir des animaux qui sont dans des fermes-usines. Donc, ce qu'on attend vraiment du gouvernement, c'est une planification à long terme et c'est tout mettre en œuvre pour que, bah oui, il va falloir s'adapter, mais on va s'adapter à des choses qui demeurent gérables parce qu'on aura réussi à contenir le dérèglement climatique, le réchauffement moyen des températures planétaires dans les limites fixées par l'accord de Paris. Aujourd'hui, on en est loin. L'État a été déjà condamné deux fois pour son inaction climatique et c'est là-dessus qu'on attend l'État.
Voilà, et pour affronter le dérèglement climatique, c'est vrai qu'on met en place des îlots fraîcheurs. Je me demande si c'est vraiment suffisant, Thierry.
Excusez-moi, on confond deux choses. On peut reprocher au gouvernement de ne pas en faire assez sur le dérèglement climatique, sur des politiques environnementales pour lutter contre ce qui est en train de nous arriver. Mais de l'autre côté, avoir une politique de prévention en disant, je rappelle que passé un certain âge, on n'a pas la sensation de la soif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des personnes âgées qui ne savent pas qu'elles ont besoin de boire. Donc rappeler un certain nombre de choses très simples, ça s'appelle la prévention. On le dit souvent sur ce plateau que la prévention n'a pas assez sa place dans les politiques
publiques.
Si c'est
juste dire aux personnes âgées qu'il faut boire quand il fait chaud, en termes de prévention, on peut peut-être faire mieux.
Non, mais ça fait partie d'un ensemble de choses. C'est un arsenal. C'est un arsenal. Donc oui, effectivement, on peut dire que le gouvernement ne fait pas assez et on peut dire aussi bien jouer pour la prévention. Il faut le faire, il faut sensibiliser. Si vous avez à côté de chez vous une petite dame que vous ne voyez pas pendant deux jours, vous prenez un peu de ses nouvelles pour voir si elle n'est pas affalée sur son canapé. Il y a des choses à faire.
Il y a vraiment beaucoup de gens en supplémentaire qui prennent des nouvelles de la petite voisine.
Moi, je pense que oui.
La fameuse canicule du temps de Chirac. Hein.
Oui. 2003.
Et 2013 aussi.
Ouais, mais c'était il y a 20 ans.
Il y a eu moins de morts.
Ça ne rajeunit pas tout ça, ma brave dame. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie prise de conscience de ça.
Après, bien sûr.
Là où le représentant de Greenpeace se trompe, c'est que c'est pas parce qu'il y a un problème global qu'on peut pas traiter aussi les symptômes. Et on traite des symptômes avec des îlots de chaleur, avec des îlots de fraîcheur quand il y a trop de chaleur. Avec il y a plein de systèmes mis en place où on appelle. Où les autorités appellent les personnes âgées.
Déjà, arrêter d'abattre des arbres.
Oui, parce que
ça faut le dire à Madame Hidalgo, par exemple.
Bien sûr, oui, comme à Paris, par exemple, où on bétonne tout. Oui, bien sûr. Donc, encore une fois, c'est. Au lieu de traiter, le problème de Greenpeace, c'est qu'au lieu de traiter aussi des choses très concrètes et d'être très pédagogue sur des choses très concrètes, c'est toujours dogmatique. C'est bien que le gouvernement fasse ça. On peut pas.
Le gouvernement, c'est pas dogmatique quand il dit que le gouvernement français a été condamné. À deux reprises pour une action climatique.
Oui,
c'est une condamnation.
Mais condamné
2015-2018.
À cause des Allemands qui ouvrent les centrales à charbon. On est condamné.
Et puis surtout,
soi-disant, il n'y a pas assez de renouvelables.
2015-2018. C'est sur la période 2015-2018.
C'est pas parce que ton voisin commet une infraction et toi t'en mets une que lui c'est
grave.
C'est sur la période 2015-2018 et c'est surtout, on s'était fixé de tels objectifs que nous ne les avons pas remplis et donc on a été condamné pour ça.
Est-ce qu'on en fait assez pour contre le dérèglement climatique pour vous, Aziz?
Ce qui est marrant, c'est que là, on voit les messages contradictoires que peut envoyer le gouvernement. C'est-à-dire que on va favoriser la voiture pour les automobilistes cet été, et en même temps, à côté, on va dire faites attention, on va faire des îlots. Ce qui est très important en fait, mais on ne voit pas très bien sur l'écologie quelle est la ligne du gouvernement.
C'est vrai qu'on comprend pas bien. Non. En tout cas, c'est pas une ligne droite. Voilà, c'est plutôt une route sinueuse. Ouais, c'est l'Alpe d'Huez avec ses 22 lacets. On en est là aujourd'hui pour combattre le dérèglement climatique. Les grandes gueules ce matin sur RMC. Que va devenir notre jeunesse? Une enquête du magazine Le Point révèle que les jeunes font de moins en moins l'amour avec des causes multiples comme l'angoisse de l'avenir, la concurrence du porno, l'excès de réseaux sociaux ou encore le puritanisme. Un constat que partage aussi le prof d'histoire Kevin Bossuet.
Non, mais c'est révélateur de ce qui est en train de se passer dans la jeunesse. Tout d'abord, il y a un retour du puritanisme, il y a un retour de la pudeur sur fond de progression des enjeux religieux. Et moi, je le vois au quotidien avec les élèves. Il y a quand même une remise en cause de l'héritage 68-art. Il est interdit d'interdire. Ça, c'est quand même quelque chose qui est présent. Après, il y a un autre processus. C'est le monde de la virtualité où les jeunes consomment de plus en plus de porno sur internet, et c'est vrai, ont une approche des autres qui est moins tactile, avec une absence d'empathie, avec l'autre est vu finalement comme une menace. Donc c'est les deux phénomènes qui coagulent et qui produisent en effet ce genre de choses, et ajoutons également la peur du lendemain, ce qui fait qu'on va moins faire d'enfants, parce qu'aujourd'hui pour avoir un enfant, il faut quand même beaucoup de courage.
Aziz, le corps d'Urgé, bon, c'est votre première dans l'émission. Moi, je suis obligée de me tourner vers vous pour ce sujet délicat, parce que vous n'avez que 26 ans, donc vous êtes la plus jeune d'entre nous. Est-ce qu'il y a un problème avec la jeunesse vis-à-vis de la sexualité?
Je peux pas répondre au nom de toute la jeunesse, je n'en sais rien, mais ça, en fait, il faut trouver quelles sont les causes. Pourquoi est-ce que les jeunes ne veulent plus faire l'amour? En fait, la question, c'est est-ce qu'ils veulent se préserver, et respecter l'autre? On voit que les thématiques du consentement sont dans l'actualité.
Hein.
Oui, mais il y a peut-être une crainte qui peut s'installer avec ces thématiques qui sont prégnantes. J'entendais une mère de famille qui a un ado, donc bien plus jeune que moi, pour le coup, et qui disait: j'ai peur de brusquer mes copines, je ne préfère pas qu'on parle de ça, donc il fait d'autres choses, il s'engage dans des assos, etc. Ce qui est parce qu'il prend, il passe pas tout son temps avec sa copine. Après tout, c'est assez positif, et ça veut pas dire que le lien ne se fera pas plus tard. Et finalement, il y a des temps pour tout, et c'est pas peut-être pas très grave si ça ne se fait pas maintenant. Si en revanche, c'est parce qu'il craigne l'altérité, si c'est parce qu'il préfère rester sur des écrans à regarder du porno plutôt que d'aller vers l'autre, là, ça devient très problématique et on peut s'inquiéter. En tout cas, moi, je vais commencer à m'inquiéter pour mes enfants parce que je suis jeune, mais un peu précoce.
Mais c'est vrai que faire l'amour, c'est aussi synonyme de légèreté, d'insouciance. On n'est pas dans un monde léger et insouciant. Mais alors moi, je me suis interrogée il y a pas longtemps où effectivement, et j'étais dans un parc. Voilà, c'est le printemps, il fait beau. Oui. Et là où, allez, il y a 10, 20 ans, vous voyez toujours des ados se bécoter sur les bancs publics, comme disait Brassens, être main dans la main. Et aujourd'hui, mais vous voyez plus d'ados se faire des bisous langoureux, se tenir la main. Ça n'existe plus. On a l'impression que c'est les vieux qui font ça. Et plus les jeunes. Et moi, ça m'interpelle, Fred Hermel.
Ça m'interpelle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que sont devenus les petits-enfants des 68-arts de Il est interdit d'interdire. Il y a une vraie vague de puritanisme, ça c'est évident.
Je ne sais pas si c'est ça. Hein.
Si, il y a un désintérêt. Et après, la concurrence du porno réel, et les sexologues expliquent, on a eu des témoignages, que la consommation de
c'est
porno empêche
le désir
sexuel. Empêche le désir sexuel, c'est-à-dire que ça provoque des troubles de sexuels très graves. Et comme aujourd'hui, les jeunes ont accès avec les réseaux
sociaux. Oui, mais même la tendresse, tu la vois plus.
Ouais,
c'est ça que je veux te dire.
Non.
Se tenir la main, c'est pas faire l'amour.
Il y a plusieurs problèmes différents. Parce que, en effet, les petits-enfants des 68-arts, peut-être qu'ils ont vu aussi l'échec de ce que c'était, cette sexualité débridée vendue par les 68-arts. Je découvrais il n'y a pas longtemps l'œuvre de Dépente, donc un peu en retard. Mais je lisais Vernon Subutex, et on voit que ce rocker qui ne veut surtout épouser aucune norme sociale, toutes les nanas et lui-même, lui finit SDF, toutes les nanas autour de lui, elles sont seules à 40 ans, elles sont malheureuses parce qu'elles n'ont rien construit, parce qu'elles préféraient consommer de la sexualité, et on voit que c'est ça aussi l'idéal qui a été vendu, et peut-être que la jeunesse cherche autre chose aujourd'hui, et ça c'est positif.
C'était pas l'idéal, c'est-à-dire qu'il y avait une période, on va dire,
de la vie,
dont on s'amusait.
On ne construit rien, construire une famille, se mettre en couple,
l'amour et construire.
Non, mais on peut avoir.
C'est un retour de bâton.
Quand on est jeune, c'est bien de connaître beaucoup de gens. Et un jour, voilà, tu rencontres une personne, etc. Je veux dire, batifoler
Mais ça, voilà, ça je suis pas sûr.
Enfin, voilà, je suis pas sûr. Ce qui manque de légèreté, voilà. Ça.
Je suis pas sûr qu'il faille défendre une sexualité avec plusieurs partenaires. On peut très bien construire quelque chose avec un seul partenaire.
Non. Dans la majorité de la population, c'était en plus d'attendre, c'est embrasser sur les dépelles, comme on disait quand on était au collège.
Personne sur les dépelles. Ça, c'est un truc.
On pensait qu'à ça, quoi. Enfin, vraiment, c'était.
Surtout. J'ai l'impression qu'il n'y a même plus de boom.
Les voyages. Ah oui, les booms.
Excusez-moi, on a l'impression que c'est 110 ans.
Les booms et les voyages scolaires.
Il y a eu le Covid.
Très propice au premier baiser. Apprentissage de roulage de pelle.
Mais bien sûr, alors, il faut savoir que c'était consenti.
Attention.
Oui, bien sûr.
De pelle consenti. Hein.
Avec la fille de ma prof d'anglais. Voilà.
Je
trouve ça un peu rude de mettre sur le dos d'aujourd'hui des gens qui sont seuls aujourd'hui le fait que ce serait une prise de conscience par rapport à une sexualité débridée post 68 tard. Non, moi je suis d'accord avec Fred. Il y a une période de la vie où on est un petit peu plus libre et puis une fois qu'on a rencontré la personne. Entre guillemets, on se casse, quoi. Enfin, voilà.
Mais ça, c'est vos normes. La jeunesse d'aujourd'hui, elle ne souhaite peut-être pas ça.
Après, le
vrai problème, c'est est-ce que. Ça, c'est votre avis. Mais peut-être que, en effet, si elle passe davantage de temps sur les sites pornographiques, là, c'est un autre problème.
Non, mais le premier coup d'arrêt, ça n'a pas été le porno, hein, ça a été le sida. Ça a été. Enfin, moi, je me souviens de cette période-là. Ça a été un arrêt brutal de cette liberté sexuelle parce que ça a été très compliqué. Mais voilà.
Mais là, je pense qu'on se trompe de sujet parce que encore une fois, quand on ne voit plus de jeunes se tenir la main ou encore une fois s'embrasser dans les lieux publics, on n'est pas sur une liberté sexuelle.
Moi, j'ai jamais fait ça.
Je vous parle pas de faire de l'amour sur un banc. Oui, mais vous n'avez jamais fait ça.
Parce que je suis pas tactile du tout.
Oui, mais vous aviez des copains qui le faisaient.
Oui.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, tu vois, par exemple, mais. Tu vois des gens qui ont 40, 50, 60 ans se tenir la main, mais tu vois quasiment plus de jeunes se tenir la main.
C'est vrai.
Et ça, franchement, il y a quelque chose qui est quand même du domaine de l'insouciance, un petit peu de la légèreté, qui s'est perdu aujourd'hui. C'est pas, pour moi, c'est pas que faire l'amour. Et on a l'impression, effectivement, que de toute façon, aujourd'hui, quand t'interroges des jeunes, c'est qu'est-ce que vous avez fait de notre planète? Mais non, mais on va pas s'en sortir, on a plus envie de faire d'enfants. Et puis, enfin, souvent, pour faire des enfants, faut quand même faire l'amour. Enfin, c'est
Et surtout, comme t'y vas.
Et puis on se sépare pour un oui ou pour un non aussi.
Mais aussi,
c'est un truc qui me sidère.
Et puis aussi, on n'écoute plus les gens parce que de toutes les manières, on est aussi sur les. Ils sont aussi, ces gens-là, sur les réseaux sociaux. Oui. C'est-à-dire que nous, quand on est né, il n'y avait pas le téléphone portable. On avait un téléphone avec un fil qui faisait 18 mètres et on attendait des coups de fil toute la soirée qui parfois ne venaient pas. Et aujourd'hui, les jeunes, ils sont sans arrêt sur leur téléphone. Déjà, ça leur fait quand même du temps disponible en moins, Thierry Moreau.
Oui, c'est pas faux.
Vous n'aimez pas ma théorie.
Si, je suis d'accord avec ce que vous dites. Il y a un côté moins tactile aujourd'hui qu'à une certaine époque. Mais comme moi, je l'ai jamais été, ça me gêne pas beaucoup.
Oui, mais les gens normaux étaient tactiles.
Voilà.
Oui, ça va. Allez, on va terminer avec un extrait d'Apolline Matin. J'adore. Écoutez bien cette question. Comment se comporter lors d'un premier rendez-vous? L'IFOP a sondé 1500 Français en leur posant plusieurs questions autour de l'organisation et du déroulement d'un premier rendez-vous amoureux. Et Charles Magnan nous a dévoilé ce matin les résultats.
D'abord, c'est à l'homme de choisir et de réserver le resto. C'est ce que pensent encore 60% des Français. On en a même 1 sur 5 qui estime qu'une femme doit arriver en retard pour se faire désirer lors du premier rendez-vous. Et puis alors, une fois installé à table, on évite le faux pas, à savoir le téléphone. Et oui, c'est ce qui agace le plus les Français. 60% ont déjà vu leur partenaire poser ostensiblement son téléphone sur la table. On fait aussi attention à ce qu'on commande. 27% des Français ont évité de manger trop copieux ou trop gras pour ne pas donner une image de laisser-aller.
Et là, on en parle.
Oui, 36% évite les aliments, je cite, qui peuvent contrarier la digestion ou donner mauvaise haleine. Bah oui, il faut penser à la suite de la soirée. Et puis, il y a la question sensible de l'addition. 65% des Français estiment encore qu'il revient à l'homme, quoi qu'il arrive, de payer l'addition d'un premier tête-à-tête au restaurant.
Fred Hermel, vous qui êtes célibataire, est-ce que vous payez l'addition lors du premier rendez-vous?
Toujours.
Ah ouais.
Mais ça m'énerve quand au deuxième, on ne paye pas l'addition. C'est-à-dire que moi, je suis pour un équilibre vraiment.
D'accord. Vous payez le premier pour qu'on vous paye le deuxième.
Non, mais je veux dire, le mec qui paye tout le temps, c'est non.
Ah, moi je suis pas d'accord. Alors moi je vais te dire, tous les déjeuners que j'ai fait et même enfin à chaque fois que c'était un déjeuner avec une femme, j'ai toujours pris soin de régler.
Mais à chaque fois,
toujours.
C'est un peu dans le côté pro, y compris dans le côté pro.
Non non, moi j'invite
toujours.
La première fois j'invite toujours.
Lui il invite dans un boui-boui la première fois, il se passe la deuxième.
Tu me connais mal et la truc, ne pas prendre de cassoulet. Si jamais ça marche, c'est Tu vois, si jamais...
Moi, j'ai vu des spaghettis bolognaises que je mange chaque
mois. Il faut un truc léger.
Faut pas se tâcher.
Tu vois, les lentilles, les flageolets, tout ça, il faut éviter si jamais ça.
J'ai jamais pensé à ça.
Eh ben, si.
En même temps, j'aime pas ça, donc je m'en fous.
Oui, parce qu'après, tu sais, ça t'a détaillé.
Vous en êtes plus au
premier rendez-vous. Moi, j'aime beaucoup. Et par exemple, tu vois, j'aime beaucoup les flageolets, oui. Mais j'invite au premier restaurant, etc.
Ouais.
Je choisis le restaurant. Ouais. Et si ça marche avec la fille, qu'elle a envie de me revoir, qu'elle ait l'idée d'un resto, qu'elle dit, je t'invite dans tel resto. Ça, je trouve ça très beau et très équilibré. Finalement, je suis déconstruit sans le savoir.
Oui, ça nous étonne un peu.
Ça fait marcher, hein.
Oui, c'est ça.
J'adore les flageolets avec les filles.